En introduction, ben, je voudrais remercier d'abord Franck et Tiziana de m'avoir invité, parce que c'est vrai que la place de l'usager, non seulement elle est aléatoire dans le système français, mais je ne suis pas scientifique. Donc ici, j'ai écouté une belle brochette de scientifiques. Il y en a encore d'autres après moi, donc c'est vrai que ma place était un peu étrange au milieu de ce colloque. De même, les difficultés de la définition de la psychiatrie et de la psychologie, c'est très compliqué à maîtriser pour un usager. Et si mon engagement dans l'autisme est bien connu, je ne vais pas faire comme s'il n'existait pas, mais je pense que c'est un excellent exemple des problèmes posés par la place et le rôle de l'usager. D'abord parce que dans le champ de l'autisme, il y a différentes problématiques associées, en particulier des problématiques psychiatriques, et donc ce n'est pas simplement l'autisme qui est en jeu, mais aussi d'autres formes de troubles mentaux, au sens où l'a défini Franck, bien entendu. Hein, je ne situe pas l'autisme dans le champ de la maladie mentale, cela va de soi. Mais aussi parce que l'autisme se croise avec d'autres troubles du développement. Et c'est très intéressant pour nous d'observer, en particulier dans les familles, comment on peut à la fois voir des enfants qui sont touchés par un TDAH, d'autres par l'autisme, d'autres par la dyslexie, d'autres par la dysphasie, etc. Il y a là tout un champ de recherche pour nous qui est très intéressant et qui montre une communauté d'usagers qui est à créer, parce que pour le moment, elle n'existe pas. L'usager, je vais commencer par essayer de vous définir ce que c'est. En fait, c'est très compliqué à définir, à la fois dans le sanitaire, dans le médico-social, et puis par rapport aux mots qu'on utilise, troubles, pathologies et handicap. Dans le champ sanitaire, il y a depuis 2002 une loi qui réglemente les droits des usagers. Avant, c'est pas qu'il n'y avait rien, c'est que ce n'était pas réglementé de la même façon. Il est très difficile de définir ce que c'est qu'un usager, puisque cela n'existe que dans une situation concrète, et qu'il n'y a pas de définition de l'usager. Si on regarde partout, il n'y a pas de texte précis qui définisse ce que c'est qu'un usager. Ce n'est pas que l'usager n'existe pas, c'est que sa place est très difficile à définir. Quand on regarde ce que peut bien signifier les droits des usagers, on en revient finalement aux droits de l'homme et du citoyen. Tout simplement, il s'agit d'un fonctionnement démocratique qui est appelé, aussi bien dans le sanitaire que dans le médico-social, et qui peine à trouver sa place en France, parce que je dirais que la France est un pays essentiellement monarchique, je pense qu'il y en a beaucoup qui iront dans mon sens, où il est extrêmement difficile de faire vivre et même comprendre ce que peut être un fonctionnement démocratique. Dans le champ sanitaire, la loi de 2002, donc c'est mars 2002 pour le sanitaire, soit la même loi pour le sanitaire et le médico-social, mais c'est la même année, ce qui facilite quand même leur repérage. Nous sommes, nous, très attentifs à des articles particuliers du Code de santé publique qui définissent justement ce qu'on peut entendre par droit des usagers. Par exemple, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Tous ces mots-là, pour nous, ont un poids très très fort. Parce que ce que nous observons dans le champ de l'autisme, mais aussi dans d'autres troubles, c'est que justement les soins les plus appropriés sont non seulement non définis, mais ce qui est considéré comme approprié, ce n'est pas ce que l'usager considère lui comme approprié. Il y a donc là une grosse difficulté de compréhension entre un très grand nombre de professionnels et les usagers. De même, les connaissances médicales avérées, nous commençons maintenant à nous appuyer sur les documents officiels de la Haute Autorité de Santé, qui essaie de définir ce que c'est que des connaissances médicales avérées. Or, là encore, concrètement, ce n'est pas mis en application sur le terrain, et donc les usagers sont en droit de protester contre le fait que des droits qui, normalement, leur sont acquis, sont absolument inexploitables. Le droit du patient à l'information médicale est devenu un pilier du contrat médical et de la relation de confiance entre le médecin et son patient. Outre que le terme de patient n'est pas forcément pertinent pour désigner, par exemple, ceux qui sont atteints de troubles du développement, mais bon, on ne va pas se battre sur les mots, surtout pas sur celui-là. Là encore, la relation de confiance que nous appelons nous aussi de nos voeux, et qui pourrait être une base de ce qui pourrait fonctionner normalement entre des professionnels dont nous attendons un certain type de fonctionnement et nous-mêmes, là encore, la relation de confiance, elle est souvent très difficile à mettre en œuvre. Un autre article précise que toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations, des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. S'il y a une chose qui est très difficile dans le champ de l'autisme et dans le champ d'ailleurs des troubles du développement au sens large, c'est bien d'avoir le droit de prendre des décisions qui concernent sa santé. Alors quand c'est un enfant, c'est très compliqué, évidemment, c'est un mineur, mais la famille qui normalement a ce droit, souvent ne peut pas l'exercer. Là encore, il y a un dysfonctionnement majeur du droit des usagers contre lequel nous protestons violemment, parce que c'est quand même inacceptable qu'en 2013, on en soit encore là. Quand on regarde le code de déontologie médicale, là encore, nous devrions avoir des armes à notre disposition pour essayer de faire fonctionner correctement la place de l'usager. Tout médecin est en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances. Il est triste, parce que moi, ça me fait de la peine, de voir que, dans le champ de l'autisme, mais aussi dans le champ des troubles du développement, souvent, des parents en savent beaucoup plus que des professionnels, médecins inclus. Il y a là quand même quelque chose qui n'est non seulement pas acceptable, mais qui fait mal, parce que nous, parents, nous aurions bien besoin qu'on nous aide. Ce n'est pas franchement à nous de faire tout le travail de connaissance, d'information, pour avoir après, en plus, la peine de prendre souvent en charge nos enfants nous-mêmes. C'est quelque chose qui, là, est extrêmement choquant. L'article 11 du Code de déontologie dit que tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances. Comment se fait-il qu'il soit si difficile d'obtenir un diagnostic conforme à la CIM-10, alors que ça devrait faire normalement l'objet de l'évolution des connaissances que tout médecin devrait obligatoirement s'imposer? C'est encore quelque chose que nous avons beaucoup de mal à comprendre, pour ne pas dire plus. Il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue. Ben oui, mais beaucoup font de la résistance, et il est souvent extrêmement difficile de proposer des actions de formation continue, par exemple dans le milieu sanitaire. Le milieu médico-social, c'est un peu différent. Là encore, le patient est en droit de refuser tout traitement, nous dit la loi, même vitale, ben c'est très compliqué. On n'hésite pas à faire pression sur des familles pour leur imposer des pratiques qui ne sont pas évaluées scientifiquement et qui peuvent être dangereuses pour les enfants, créer des stéréotypies, par exemple, comme le packing, pour citer celui-là. Et là encore, la loi est très difficilement appliquée. Alors c'est vrai que c'est très compliqué pour les enfants, puisqu'il y a des réserves pour les enfants, où le médecin a plus la possibilité, qu'on peut comprendre, d'évaluer ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire quand il sent que l'enfant est en danger. Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin. Là encore, je n'y reviens pas, nous sommes en grande difficulté pour obtenir des diagnostics qui soient corrects. L'article 39 du Code de déontologie, les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Pour nous, c'est fondamental qu'on ne puisse utiliser que dans le champ de la psychiatrie et de la psychologie, que des méthodes, des pratiques qui soient appuyées sur des données éprouvées. Sinon, on ne voit pas comment on peut faire fonctionner quelque chose qui soit acceptable et sur le plan médical et sur le plan éthique. Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions. Compte tenu des données acquises de la science, a été ajouté récemment. C'est très important qu'un médecin prenne l'habitude de penser qu'il doit se référer au monde scientifique et aux connaissances scientifiques telles qu'elles sont en train d'être modifiées éventuellement, et de joindre à sa propre pratique à une réflexion sur l'évaluation de ce qu'il fait par rapport à ce corpus scientifique. Là encore, on manque beaucoup en France d'action dans ce domaine. C'est la même chose pour les psychologues. Le psychologue doit tenir compte des connaissances théoriques régulièrement mises à jour. Nous nous étonnons que beaucoup de psychologues récusent d'emblée un certain nombre de pratiques qui relèvent des TCC au motif que ça ne rentre pas dans le cadre dans lequel eux conçoivent leur formation théorique et après l'exercice clinique de cette théorie. Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Les règles déontologiques doivent être pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. Là encore, nous aimerions trouver l'utilisation concrète de ces articles-là sur le terrain. L'article 17, la pratique du psychologue est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ses techniques. C'est ce que disait Franck ce matin. Là encore, maintenant, les usagers sont de mieux en mieux informés. Ils savent très bien qu'existe une multitude de pratiques. Et eux ont déjà fait ce tri. Eux, ils sont capables justement de voir où sont les pratiques alternatives à ce qu'on leur propose et de voir en quoi c'est plus efficace pour eux que ce qui leur est proposé. Donc c'est très difficile pour nous de comprendre pourquoi nous qui avons fait une large partie du chemin tout seul, nous nous heurtons à des professionnels, pas tous heureusement, mais qui quand même dans une grande majorité n'ont jamais fait ce chemin. Bon, ça je passe. Dans le champ médico-social, l'article 7 est fondamental parce qu'il indique le libre choix des prestations. Ben, nous en sommes toujours là. Où est le libre choix des prestations? Faut-il encore que la demande, la nôtre, c'est-à-dire d'une psychiatrie, d'une psychologie fondée sur des preuves, se puisse trouver l'offre équivalente en face? Or, ce n'est pas le cas. Là encore, nous ne comprenons pas pourquoi il faut tant batailler Autisme France, c'est près depuis 25 ans qu'on le fait, hein, pour obtenir quelque chose qui est quand même fondamental. C'est de telles évidences. Quand Franck m'a proposé d'intervenir à ce colloque, je me suis dit, mais je ne vais qu'enfoncer des portes ouvertes. Hein, je ne vais dire que des évidences. Ben oui, ce ne sont que des évidences. Mais ces évidences n'existent pas sur le terrain. C'est très surréaliste. Hein, on ne dit que des choses élémentaires et fondamentales, mais personne n'en tient compte. Pourquoi une psychiatrie et une psychologie fondées sur les preuves ? Qu'est-ce qu'en pense l'usager ? Ben pour lui, il y a trois façons de penser le problème. D'abord, mieux comprendre. Ça fait quand même partie de ce qui est fondamental pour des familles. Mieux agir, parce que si on ne fait rien et qu'on n'intervient pas, nos enfants, ils se dégradent. Nous le savons très bien. Donc nous avons, nous, comme tout bon parent, le souci de faire que nos enfants ne se dégradent pas, deviennent autonomes, survivent après nous, parce que ce n'est pas toujours le cas, dans des conditions acceptables et dignes, et développer une approche éthique de la personne handicapée. Mieux comprendre, c'est quel fonctionnement de la personne, partager un savoir avec les professionnels et être associé aux recherches, autant que possible. Quel fonctionnement de la personne ? Nous vivons avec les personnes autistes, comme d'autres vivent avec des personnes dyslexiques ou dysphasiques, ou souffrant d'hyperactivité, etc. Et je vous prie de croire que ce n'est pas une sinécure. C'est très compliqué de vivre avec une personne autiste. Donc il est essentiel de comprendre comment fonctionne cette personne, parce que c'est notre point de repère principal. Et nous avons besoin d'aide. Nous ne sommes pas des scientifiques a priori, donc nous avons besoin qu'on nous explique comment fonctionnent les personnes autistes sur le plan cognitif, sur le plan comportemental, sur le plan émotionnel, par exemple, ou sur le plan sensoriel, parce que c'est absolument essentiel et ce point est souvent négligé. De même, nous avons besoin d'expliquer aux autres le fonctionnement de cette personne. Très souvent, si nous voulons que nos enfants soient inclus dans la vie sociale, nous prenons notre bâton de pèlerin, nous allons expliquer aux enseignants, nous allons expliquer dans les centres de loisirs, après sur les lieux de travail, ce que c'est qu'une personne autiste, comment elle fonctionne, comment on peut s'adapter à elle, ce qu'on peut lui demander à elle comme adaptation, parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche que dans un seul sens, évidemment, et comment cela peut fonctionner au mieux. Donc une large partie de notre temps passe dans la formation des autres, mais à partir de ce qu'on aura pu comprendre sur le fonctionnement des personnes autistes. De même, c'est évaluer ses besoins. Là aussi, nous avons besoin des professionnels pour nous aider à mieux comprendre à quel stade en est une personne autiste. Compte tenu de ses retards de développement parfois très spectaculaires, ça ne sert à rien de dire qu'une personne autiste, elle a 18 ans, et de penser qu'avec ses 18 ans, elle doit pouvoir faire face à des problèmes d'un adulte de 18 ans. Ça n'a aucun sens. Mais c'est très important pour nous qu'on nous l'explique, et qu'on nous l'explique de manière claire, et qu'on nous l'explique par rapport à un bilan précis. Par exemple, sur ce plan-là, eh bien, il a 2 ans. Sur ce plan-là, il a 4 ans. Sur ce plan-là, il a 6 ans. Il a peut-être 18 ans dans son corps, mais ce n'est pas la même chose pour le reste. C'est essentiel, parce que sinon, on n'a pas de point de repère. Après, ça ne répond pas à toutes les difficultés, bien sûr. En particulier, l'adaptation fine qui doit être la nôtre, comme celle des professionnels. Comment fait-on en face de quelqu'un qui a à la fois 2 ans, 4 ans, 6 ans, et éventuellement 18 ans ? Selon la Haute Autorité de Santé, c'est ce qu'a rappelé Bernadette, les besoins, c'est structurer l'environnement de façon adaptée et tenir compte des demandes des personnes et de leurs familles. Je n'y reviens pas, parce que Bernadette l'a très bien expliqué. Donc voilà ce qui était devenu, dès 2010, un point de repère précieux pour nous. Enfin, un document officiel qui listait un certain nombre de besoins de base de la personne autiste que nous pouvions après, nous, utiliser pour nous, mais aussi répercuter sur les personnes qui nous demandaient comment expliquer le fonctionnement d'une personne autiste. La multiplicité des besoins d'une personne suppose des réponses par une équipe pluridisciplinaire informée des connaissances et pratiques actuelles. Nous aimerions bien que ce soit toujours le cas et que nous ne soyons pas toujours les seuls, nous, à disposer des connaissances actuelles et des pratiques actuelles en autisme. La multitude des types d'interventions demande concertation avec les parents. Ce point commence à se faire. Il y a des professionnels très attachés à la collaboration avec les parents, mais il y en a aussi qui rament en sens contraire, si je puis dire, et de manière très spectaculaire, pour ne pas dire très agressive. Partager un savoir avec les professionnels, c'est une position éthique, bien sûr. Il s'agit de transparence. Et ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, comme disait un de mes maîtres quand j'étais enseignante de lettres, Boileau, pour ne pas le nommer. Et c'est vrai que nous avons beaucoup de mal avec les personnes qui essaient de nous enfermer dans un jargon absolument innommable, qui est inacceptable. Moi, j'ai toujours dit à mes élèves, quand vous ne comprenez pas quelque chose, pensez que c'est certainement parce que ça ne vous a pas été présenté de manière compréhensible. Donc, celui qui est en tort, c'est d'abord celui qui vous a présenté la chose de manière non compréhensible. C'est aussi une position pratique, parce que ce que nous visons, nous, c'est l'efficacité. Nous, les parents ne sont pas dans l'idéologie, si vous croyez qu'ils ont le temps de faire de l'idéologie. Nous, on est dans la survie, essentiellement, et puis on est dans la construction d'un projet de vie pour nos enfants, pour qu'après, ils puissent trouver une place la meilleure possible dans la société, compte tenu de leurs difficultés, bien sûr. Nous sommes lucides. Donc, ce que nous essayons, c'est d'avoir un diagnostic tôt, d'avoir une évaluation bien faite, qui consiste à montrer quels sont les besoins des personnes et de quelle façon on peut y répondre, parce que l'évaluation pour l'évaluation, ça ne sert à rien, et puis de voir après quelles sont les interventions qu'il est possible de mettre en œuvre. Et puis, pour avoir des relations de confiance, c'est exécrable de devoir se battre contre des professionnels de santé ou du médico-social. C'est pour nous une souffrance, contrairement à ce que certains disent, parce qu'il y en a qui croient que ça nous fait plaisir de nous heurter en permanence à des gens qui ne nous comprennent pas. Ben non, c'est une souffrance majeure, parce que ce n'est pas acceptable, et ce n'est pas comme ça non plus qu'on peut servir la cause des enfants. Être associé aux recherches, ben que chercher ? Très peu souvent, on nous demande ce qu'il faut chercher, compte tenu des besoins que nous savons évaluer sur nos enfants, même si nous ne savons pas tout faire. Ce serait bien aussi de nous demander notre avis. On ne le fait pas. De même, nous nous interrogeons sur les limites de l'étiologie. La recherche dans ce domaine, elle a avancé, mais c'est vrai, pas suffisamment. Il nous manque des recherches fondamentales et qui pourraient faire avancer l'étiologie de l'autisme de manière un peu significative. Je pense qu'on se porterait mieux si on avait dans ce domaine-là des avancées un peu fortes. Avec qui chercher et dans quel but ? Là encore, c'est des problèmes qui sont parfois à la limite de l'éthique. Ce qu'on peut chercher au bout, il faut aussi savoir ce qu'on peut en faire. Si on peut améliorer de manière très sensible le comportement des personnes autistes, par exemple, et leur donner beaucoup de chances d'insertion sociale, pour certaines, pas pour toutes, quel est le but derrière ? Et jusqu'où peut-on aller ? Une personne autiste se structure comme une autre aussi, avec son handicap, comme d'autres personnes handicapées. Et c'est très compliqué de penser que si on pouvait remédier de manière plus forte au dysfonctionnement de cette personne, on modifierait aussi de fait leur identité. Moi, je me pose aussi ce problème comme ça, et c'est un problème pour moi philosophique majeur, très intéressant, auquel je n'ai pas de réponse. C'est mieux comprendre, c'est toujours pour mieux agir. Évaluer et réévaluer les besoins, c'est ce qui fait qu'à un moment donné de l'histoire de la personne que nous accompagnons, nous allons mettre en œuvre autre chose que ce que nous avons fait. C'est essentiel pour nous. Nous avons besoin d'agir. Le document de la Haute Autorité de Santé sur les recommandations de bonnes pratiques, puisque j'étais au comité de pilotage, on a beaucoup hésité sur le terme, parce qu'au départ, ça devait être soin, ça ne me plaisait pas du tout. Et finalement, on a tranché pour le terme d'intervention, que je trouve tout à fait judicieux. On intervient, on ne reste pas sans rien faire. Ce n'est pas acceptable. Laisser croupir dans l'autisme une personne autiste, ça s'appelle de la maltraitance. Et donc, pour nous, c'est fondamental. L'intervention est absolument fondamentale. Après, ça ne résout pas le problème de savoir comment on intervient. Parce que c'est très compliqué d'adapter aux différents profils, les différents programmes éducatifs qui existent sur le marché, entre guillemets. C'est très compliqué. C'est très compliqué pour les familles, mais c'est aussi très compliqué pour les professionnels. Évaluer l'efficacité des pratiques au vu des progrès ou des échecs. Pas par rapport à une idéologie. Encore une fois, cela ne nous intéresse absolument pas. On n'est pas dans ce registre. Nous, on ne veut pas de la croyance ou d'une hypothèse qui n'a pas été prouvée. Nous, nous voulons ce qui permet à nos enfants de faire des progrès, comme pour tout enfant. Un enfant autiste, c'est d'abord un enfant. Et il doit, comme tout enfant, pouvoir faire des apprentissages, parfois adaptés, parfois limités. Bon, nous sommes très lucides, mais il doit pouvoir faire des apprentissages. Si ça lui prend 10 ans pour apprendre à lire, eh bien, ça lui prend 10 ans pour apprendre à lire. Et après, l'essentiel, c'est quand même qu'au bout, il sache lire. Échanger de pratiques, parce que ce qu'on observe, c'est que les pratiques qui nous sont imposées, contre notre gré, à la Haute Autorité de Santé, il n'y a pas eu une association d'usagers pour défendre la psychanalyse, quand même, il faut le dire. Bon. Donc c'est bien qu'il y a un problème, et que ce problème, il faut le penser autrement que la manière dont on l'a habituellement pensé. Ça existe, bon ben voilà, on continue. Ben non, ce n'est pas parce que quelque chose existe qu'il faut indéfiniment poursuivre cet existant si cet existant n'est pas adapté. Donc nous, ce que nous demandons, c'est qu'on s'adapte aux besoins des personnes autistes, qu'on s'appuie sur ce qui a été validé ailleurs, même si c'est partiel. Quand c'est 50% de bénéfices, ben ce n'est que 50%. D'accord, mais c'est énorme. Si déjà, pour 50% des enfants, on peut avancer de manière significative, il faut déjà le faire et continuer pour voir comment on peut améliorer et affiner ces programmes. Ce qui manque, c'est de mieux définir des sous-profils de personnes autistes pour mieux adapter de manière fine ce qu'on peut faire. Évaluer les besoins, c'est des besoins en tout genre, des bilans médicaux, des médicaments, l'aide psychologique, etc. Tous ces besoins-là, souvent, pour lesquels nous sommes extrêmement démunis. Si nous voulons obtenir, nous, un bilan génétique, ce n'est pas simple du tout. Le droit de l'usager, c'est bien quand même d'avoir accès à son dossier de santé et de faire en sorte que lui soit proposé tous les éléments qui puissent permettre de mieux maîtriser le trouble dont il souffre. Ben, ce n'est pas le cas. Nous avons énormément de difficultés. Alors, je comprends, ça peut coûter cher. Mais bon, argument-là n'est pas recevable pour les familles, c'est le moins qu'on puisse dire. Les bilans développementaux que nous avons le plus grand mal à faire, parce qu'il y a très très peu de psychologues qui sont compétents pour faire ces bilans développementaux et analyser exactement les besoins des personnes et ce qu'on peut faire après dans le cadre des interventions. Et rappeler que l'évaluation doit toujours être fonctionnelle, hein, c'est-à-dire qu'elle doit servir à s'appuyer sur les points forts des personnes, à repérer aussi leurs difficultés et à voir comment on peut les améliorer. Sinon, ça ne sert à rien. On aboutit à ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui m'a été rapporté par une famille. Donc, c'est un enfant Asperger, hein, qui a le premier de sa classe, 17 de moyenne. Voilà, type A que l'équipe éducative s'est dit qu'il fallait absolument consulter la psychologue scolaire. Alors, la psychologue scolaire fait son bilan, elle utilise la façon habituelle, elle prend le WISC 4 et puis elle l'applique comme ça, sans ménagement et sans adaptation, à l'enfant autiste. Et elle en conclut qu'il est dans la déficience intellectuelle et que donc il n'arrivera jamais à poursuivre d'études et que la réorientation est absolument, il est en quatrième quand même, hein, la réorientation est absolument indispensable. On aboutit à ce genre d'ânerie. Bon, ça fait sourire, hein, vaut mieux en sourire quand même. La famille, elle ne souriait pas. Hein. Elle me demandait, elle, comment elle allait pouvoir se sortir de ce piège. Évaluer l'efficacité des pratiques, on a des textes là encore. Que dit la Haute Autorité de Santé ? Sur le plan scientifique, on ne peut faire valoir l'efficacité d'une intervention sans son évaluation préalable. Comment se fait-il qu'on nous impose toujours des pratiques dans le champ sanitaire comme dans le champ médico-social qui n'ont jamais bénéficié de la moindre évaluation ? C'est quand même quelque chose que nous ne supportons plus. Les connaissances maintenant se diffusent avec une très grande rapidité parmi les familles, grâce aux réseaux sociaux. Là, on ne dira jamais assez à quel point Internet a été une révolution absolument extraordinaire pour faire vivre les droits des usagers. Et je pense que cette révolution n'est pas du tout achevée et que c'est de cette façon-là que les usagers finiront aussi par imposer leur point de vue. Pour le moment, ils restent minoritaires. À la Haute Autorité de Santé, on était 7 au groupe de pilotage. On nous a expliqué doctement à la Haute Autorité de Santé qu'il y avait un trépied pour faire les recommandations. Ça a été rappelé brièvement ce matin. Donc il y a les données scientifiques, bien sûr, l'expérience clinique, dont je n'ai jamais compris ce que c'était parce qu'on ne l'a pas expliqué, et puis les besoins des usagers. Bon, un trépied dans mon esprit, même si je ne suis pas scientifique, ça a trois pieds, ça tient en équilibre parce qu'il y a trois pieds équivalents. Enfin, dans mon esprit, c'était ça. Moi, j'étais toute seule pour les usagers. C'est donc un trépied quand même un peu bancal. L'efficacité des pratiques, c'est aussi revenir à ce qui est souvent le plus simple, même si ça ne sert pas du tout à définir uniquement le travail qui devrait être le nôtre, mais le comportement. Nous, on nous objecte que nos enfants, ils ont des difficultés de comportement. C'est vrai, c'est pas toujours vrai, mais c'est souvent vrai. Et puis voilà, hein, et hop, bon, bah, ça vaut exclusion automatique. Alors que très souvent, si on se demande simplement pourquoi ce comportement a vu le jour, et ce qu'on peut faire de l'analyse qu'on a menée autour de ce comportement. Mais souvent, c'est très spectaculaire. C'est-à-dire, non seulement on va régler le comportement, mais on va définitivement anticiper pour qu'il ne se reproduise pas. Ce n'est pas toujours magique, hein, parce qu'il y a aussi des cas très sévères pour lesquels ça ne fonctionne pas. Mais quand même, c'est un principe de base, ça. Faire valoir ce principe de base, c'est encore très largement difficile dans beaucoup d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Changer les pratiques, avoir les preuves de l'efficacité, même relative d'une pratique, invite à continuer les évaluations. C'est ça qui est porteur, hein, c'est de se dire on n'a pas tout trouvé, bon ben voilà, hein, on n'est pas sûr à 100%, hein, là encore il y a des profils pour lesquels ça ne marche pas, mais je veux dire au moins c'est une invitation à continuer. Avoir les preuves de l'efficacité d'une pratique, c'est inviter à demander son financement public et à réorienter l'argent public. Là encore, l'usager c'est quand même un contribuable et un citoyen. Les droits de l'usager c'est jamais autre chose que les droits du citoyen. Bon, ben, le citoyen a quand même le droit de savoir à quoi est consacré son argent. Qu'on sait à gaspiller de l'argent public à des pratiques non évaluées et non efficaces, puisque les parents, c'est quand même les premiers à savoir que ce n'est pas efficace, on voit bien la différence entre ce qu'ils arrivent à mettre en œuvre avec leurs deniers, souvent à grand-peine, en trouvant quelques professionnels engagés et compétents, ils voient bien ce que cela peut donner sur certains profils d'enfants. Et parfois, c'est très spectaculaire. Pas toujours, mais souvent, c'est très spectaculaire. Donc, ce n'est pas juste de ne pas obtenir le financement public pour ce qui finalement est une activité citoyenne de la part des usagers, c'est mettre en œuvre ce qui va rendre autonome un enfant plus tard et donc faire en sorte qu'il coûtera moins d'argent à la collectivité. Eh bien non, on le punit. Au lieu de lui dire qu'il va dans la bonne direction et que c'est comme ça qu'il faut faire, en France, cela reste très largement impossible. Il n'y a qu'à voir les aléas du troisième plan autisme, qui pour le moment n'est toujours pas sorti. Développer une approche éthique au service des droits de la personne handicapée, respectueuse de sa singularité et de sa dignité, et lucide. Au service des droits des personnes handicapées, c'est respecter déjà les droits de ces personnes en tant qu'êtres humains, ce n'est pas toujours le cas, et respecter les droits des familles qui les accompagnent. Quand c'est des parents, bah, c'est l'autorité parentale hein, qui souvent est bafouée. Normalement, l'autorité parentale appartient au père et mère. Dans le champ de l'autisme, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, c'est respecter aussi la dignité de la personne handicapée. Il y a maintenant une convention ONU des droits des personnes handicapées, dont certains articles des lois françaises contreviennent, mais totalement, à ce qui est dit dans la convention ONU. Là encore, la loi française devrait se mettre aux normes de la convention ONU des droits des personnes handicapées. Or, ce n'est absolument pas fait. Là-dedans, il y a le droit de ne pas avoir, par exemple, des traitements dégradants. Bon, ben, pour certains, nous comprenons ce que ça veut dire. C'est écrit dans la Convention ONU des droits des personnes handicapées. Ça devrait être maintenant la règle pour chaque ministère. Ne devrait jamais sortir une loi qui concerne les personnes handicapées sans avoir comme référence la Convention ONU des droits des personnes handicapées. Je prends l'article 24, c'est l'école inclusive. L'école inclusive en France, dans le champ du handicap, ce n'est pas toujours le cas, mais nous sommes les parias du champ du handicap. C'est-à-dire que dans le champ de l'autisme, je ne dis pas que c'est inexistant, il ne faut pas exagérer, mais c'est quand même très minoritaire. De même, il y a une résolution européenne sur l'autisme que la France a signée. Ah, c'est une résolution quand même. Ce n'est pas une recommandation, c'est une résolution qui invite les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes autistes aient droit à un diagnostic précoce, une intervention précoce, un soutien éducatif, une scolarisation et une insertion au milieu ordinaire. Bon, la France l'a signée. La France l'a signée, oui, comme la Convention ONU des droits des personnes handicapées qu'elle a signée et ratifiée, ce qui n'est pas la même chose, mais qui n'est toujours pas mise en œuvre. La singularité et la dignité de la personne, j'y tiens. Parce qu'on a vraiment l'impression que partout, on parle de l'éthique qui est due à une personne handicapée, sauf dans le champ de la psychiatrie et de la psychologie scientifique. Or, c'est absolument fondamental d'expliquer que ça n'a pas de sens de voir les choses comme ça, bien au contraire. On ne peut pas mener de programme éducatif qui soit efficace si on ne part pas des intérêts de la personne, si ce n'est pas strictement individualisé par rapport à ce qu'est cette personne et ce qu'on a identifié comme étant le caractère unique de cette personne. Non seulement ça n'a pas de sens sur le plan éthique, mais ça n'est pas efficace. Ressentez les pratiques sur la dignité de la personne. On parle beaucoup d'humanisme, c'est un beau mot, mais l'humanisme, c'est recentrer toutes les activités de l'homme autour de sa dignité. Ce n'est pas du blabla, ça veut dire qu'on met au centre ce qui permet de valoriser la dignité de cette personne. Un être humain, c'est d'abord quelqu'un qui communique et qui est autonome. Pour moi, c'est cela la définition de l'humanité d'une personne. Donc tant qu'on ne met pas en œuvre les moyens de donner à toutes les personnes, même autistes, ces outils-là, je pense qu'on ne respecte pas la dignité de la personne autiste. C'est cela, être humain. En conclusion, un grand espoir pour nous, parce que le champ des droits de l'usager est à construire, le mot « droit » renvoie à la capacité juridique de toute personne, qui est garantie par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais elle est très difficile à mettre en œuvre. Et puis, cette capacité juridique, elle suppose aussi qu'on puisse la mettre en œuvre sur le plan juridique. Or, nous sommes très mal organisés sur le plan juridique pour faire valoir ces droits. C'est encore un champ tout à fait embryonnaire. Mais c'est un espoir pour nous. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas faire, par exemple, ce qui a été fait dans le champ des patients atteints du sida, qui, eux, parce qu'ils se sont appuyés massivement sur les droits qu'ils avaient en tant que patients, ont pu faire changer les lois et les mentalités. C'est un modèle pour nous, même si nous sommes très très loin, nous, des capacités d'action, bien sûr, de ce champ-là de la pathologie. Les difficultés de la transparence, la France a beaucoup de difficultés avec la transparence, on le voit dans le champ politique, mais on le voit dans le champ économique, on le voit partout. C'est une culture anglo-saxonne que j'apprécie beaucoup, mais qui n'est pas une culture française. Nous, on a la culture du secret, on a la culture du gourou, on a la culture du monarque, on a la culture de celui qui sait, et puis nous, qui ne savons pas, nous ne devons accepter que celui qui sait fasse à notre place. Non, ce n'est pas acceptable, mais ça engage aussi la liberté de l'usager et il faut la défendre. Et c'est très compliqué d'obliger maintenant les familles à monter au créneau en leur disant « mais c'est aussi votre problème, n'attendez pas que ce soit pris en compte par de grosses associations, par exemple, ou des avocats. C'est aussi à vous à faire vivre les droits des usagers. » Les difficultés françaises sont bien connues. C'est notre résistance, nous, au changement. Je dirais pour terminer, sans être pessimiste, que la France est quand même un pays extrêmement ringard et verrouillé, où il est très difficile de changer les mentalités et les pratiques, mais vraiment très difficile. Mais il n'y a pas de raison que la France n'y arrive pas. Moi, c'est mon pays, moi, je l'aime après tout. J'y suis née, je tiens aussi à y rester. Donc ça me fait quand même un peu de peine qu'un pays qui, par ailleurs, a tant de talent, ne soit pas capable quand même de se mettre un minimum aux normes dans ce domaine-là. Je vous remercie.
Oui, je voudrais vous remercier, madame. Nous sommes quelques-uns membres de l'UNAFAM ici, qui est l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et handicapées psychiques. Tout ce que vous avez dit, nous aurions pu le dire également pour nos proches qui, eux, souffrent de psychoses graves. La plupart, hein. On n'est pas dans le champ de l'autisme, mais on est dans le même combat et les mêmes difficultés. Merci.
Question. Il y a monsieur là-bas au fond.
Ce ne sera pas une question, juste une remarque qui va dans le même sens. C'est de la part aussi d'un psychologue et universitaire de vous remercier. C'est dans le sens inverse que les connaissances devraient circuler. Et j'espère que votre discours qui sensibilise les futures générations à mettre l'usager au centre sera entendu. J'essaierai de diffuser l'information. C'est quelque chose qu'on essaye de transmettre aux étudiants, aux futurs professionnels, de se mettre à jour, de mettre l'usager, le patient, sa famille au centre. Votre discours est filmé, j'espère qu'il sera diffusable largement pour que les futures générations ne reproduisent pas les erreurs maintenant. Donc merci et désolé pour les quelques collègues actuels qui ne respectent pas ça.
Donc à propos des enregistrements, j'en profite pour vous dire que, évidemment, si c'est enregistré, c'est enregistré intégralement et ça s'est fait pour être mis en ligne sur le site de l'ENS. Et ça sera évidemment librement accessible à tout le monde et en particulier à tous ceux qui n'ont pas pu assister au colloque. Et toutes les personnes qui sont inscrites au colloque recevront un mailing avec l'adresse du site. Alors il y avait monsieur qui avait une question.
Merci beaucoup madame. J'aurais envie de poser la question à vous et à la personne précédente qui a parlé. En effet, selon qu'on associe ou pas les parents, je pense que ça change quand même beaucoup la manière dont évolue la personne. En tout cas, je ne m'occupe pas de ce handicap, je m'occupe d'un autre handicap, plus léger, hein, bien sûr. Et on constate à chaque fois le fait que si les parents s'associent, alors nous emmenons l'enfant vers un, entre guillemets, mieux-être, hein, que nous pouvons évaluer. Donc, à ce titre, j'aurais envie de reposer la question dans, justement, ce colloque qui a consacré à la médecine épreuve, hein, et l'épreuve. Qu'est-ce que pourrait nous dire donc la personne précédente sur l'accompagnement des parents ? Parce que ce que vous avez dit, pour moi, est très juste, mais faut-il le prouver ?
Dans le champ de l'autisme, c'est sans doute une particularité de ce handicap. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une collaboration entre les professionnels et les parents. Ce qui est mis en œuvre par des professionnels compétents, si ce n'est pas relayé par des parents, donc ils doivent être eux-mêmes formés, et pas simplement sensibilisés. Ça, nous, on nous met dans le champ des aidants familiaux. Moi, je récuse ce terme, même si par ailleurs il est noble, parce que nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Nous, nous devons être, non pas des experts, ce n'est pas notre fonction, même si l'expertise profane des parents de personnes autistes a été reconnue par l'ANCREAI en 2008, mais je ne revendique pas du tout ce terme. Mais aussi, à leur façon, des professionnels. Parce que c'est une caractéristique de ce handicap. Si tout le monde ne fait pas la même chose, de la même façon, ça ne sert strictement à rien. Vous avez entièrement raison, monsieur, de le souligner. C'est comme ça qu'on avance. Donc cette relation de confiance dont on parlait, elle est absolument fondamentale parce qu'elle est mise au service de l'enfant et de l'adulte plus tard, parce que cette même relation de confiance doit perdurer. Je ne sais pas si bien Adette, tu veux ajouter quelque chose.
Alors, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de preuves directes. Par contre, il y a des preuves indirectes. Par exemple, les personnes avec autisme généralisent très difficilement. Et il est évident que quand les parents collaborent, sont informés correctement, comprennent comment fonctionne la personne, eh bien, on multiplie les opportunités de transposition des acquisitions dans différents environnements. Et donc, c'est une amélioration. Et je dirais que ça va de pair faire avec une amélioration aussi sur le plan émotionnel, parce que c'est valorisant et c'est réconfortant pour la famille de sentir qu'elle partage, qu'elle progresse. C'est pour ça que je parlais aussi de qualité de vie, ça participe. Et nous, on a sur un autre plan un programme aussi d'évaluation il faudra peut-être que je change le terme puisqu'il ne plaît pas à Daniel, mais un programme d'aide aux aidants qui est multiple, avec plusieurs dimensions. On a ce qu'on a appelé l'école des parents. On a fait ça pour donner une petite note joyeuse, disons. L'école des parents, c'est pour apprendre aux parents comment fonctionne la personne. Ensuite, on a du répit avec des étudiants qui sont en formation et qui vont dans les familles avec la supervision des universitaires, dont c'est le travail. Donc, on a mis un module dans notre master où les étudiants vont à domicile, ils font du travail avec les familles et nous, dans nos heures d'enseignement, on les supervise. Et puis, il y a aussi des groupes, alors qui ne sont pas des groupes de parole, parce que ce n'est pas assez formalisé, les groupes de parole, mais des groupes TCC, dans lesquels on apprend aux familles la gestion du stress, la gestion des situations problèmes. Voilà. Et tout ça fait que ça améliore quand même. D'abord, c'est une collaboration effective. Et on sent qu'il y a un plaisir partagé, c'est important. Et j'espère, j'ai mis une thésarde sur ce thème, et j'espère qu'on va apporter des données qui vont abonder dans le sens. Je crois que ça, c'est très aidant, effectivement.
Je voulais savoir, est-ce que dans les plans nationaux autisme, puis bon, ça va aussi pour les autres troubles développementaux, il y a des actions qui sont prévues par rapport aux universités, parce que il y a énormément d'universités en France qui se réclament encore de pratiques qui ne sont pas fondées sur des preuves, qui forment chaque année de nombreux étudiants qui vont être opposants aussi à ces pratiques fondées sur des preuves. Et j'ai l'impression que comme il y a l'autonomie des universités, c'est des pratiques qui sont très difficiles à faire évoluer. Est-ce que vous avez une vision de ce qui est possible en tant qu'association d'usagers? Est-ce que vous avez des moyens de pression vis-à-vis de ça? Et comment est-ce que vous voyez l'évolution par rapport à ça?
Vous avez répondu dans la question. C'est-à-dire que les universités étant autonomes, il n'est pas question de leur donner des ordres pour qu'elles changent le contenu des diplômes qu'elles mettent en œuvre. Je pense par exemple au DU autisme. Dans une grande majorité, il n'est absolument pas aux normes, effectivement, mais il n'y a pas de moyen de rétorsion. Si ce n'est en tant qu'usager, si on arrive à acquérir suffisamment de poids, la honte. Par exemple, il y a une liste noire qui circule de formations qui ne sont pas conformes à l'état des connaissances sur l'autisme et recommandations de bonnes pratiques. Alors, cette liste est très, très efficace parce qu'au Comité national autisme, il y en a quand même plusieurs qui l'ont citée. Et qui n'était pas content d'ailleurs qu'existe une liste, où les usagers ont pris leur part quand même de travail pour dire ça c'est pas acceptable. Donc, à part ce moyen de pression là, mais qui à mon avis est très efficace si on peut le développer massivement, parce qu'il y en a quand même qui sont venus se plaindre d'être sur la liste noire en disant tiens mais on a changé. On a souri parce qu'il y avait de quoi, mais sur le fond ça indique que c'est certainement une piste de travail solide. J'en vois pas tellement d'autres. À moins de modifier la loi sur les universités, ça me paraît difficile.
Non, mais les universités sont autonomes, mais c'est le ministère qui formate les programmes généraux, et les différentes disciplines qui doivent être enseignées pour obtenir les diplômes. Or, le précédent ministre, je ne sais pas si vous le savez, de l'enseignement supérieur a essayé d'imposer un enseignement pluridisciplinaire en psychologie, prenant en compte les différents types de psychothérapie, la biologie, etc. Je crois qu'il a reculé.
C'est bien ça le problème. Les lobbies sont très puissants en France et ce n'est pas que la volonté politique ne trouverait pas une forme d'expression. C'est qu'après, elle bute sur le fait que sur le terrain, ce n'est pas possible.
Il y avait Jacques Van Rilard qui était devant.
Oui, alors... La raison pour laquelle les choses ont changé dans divers pays, les pays anglo-saxons et la Belgique, par exemple, ou la Hollande, c'est qu'on exige des futurs professeurs d'université de faire des recherches empiriques convenables et de les publier dans des revues aussi convenables. Alors, si on se contente de commentaires de textes, par exemple, à l'infini, pour devenir agrégé au professeur d'université, alors, évidemment, il n'y aura pas beaucoup de changements. Si maintenant, on exige de faire des travaux d'un certain niveau, alors, évidemment, les choses changent radicalement, en peu de temps. C'est pour ça, par exemple, qu'à l'université de Louvain, il y a 30 ans, quand j'étais jeune, tout était freudien, mais aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de freudien. Il n'y en a plus qu'une qui essaye de faire de la recherche empirique. Et mes amis, mes collègues comportementalistes l'aident assez bien. Elle se débrouille pas mal parce qu'elle est très gentille. On essaye de l'aider.
Je voudrais savoir si vous avez pu intervenir dans les projets de nouveaux centres de formation pour les enseignants. Parce que dans votre exposé, puis vous êtes vous-même enseignante d'après ce que vous avez dit, vous semblez avoir, en tant que parent d'autistes, rencontré beaucoup de difficultés auprès des enseignants. Qu'ont-ils comme information ? Qu'ont-ils comme formation ? Et que vont-ils avoir dans les nouveaux centres qui sont en cours de préparation ?
Alors, ce qui est prévu, c'est une formation générale au handicap. Donc, je pense que ça ne va pas résoudre les problèmes concrets. Après, c'est comme partout. Il y a des gens extraordinaires partout, comme vous le savez. Moi, des enseignants extraordinaires qui ont pris à bras-le-corps le problème de l'autisme et qui sont devenus très compétents, j'en connais. Donc, je peux dire qu'ils existent. C'est très variable d'une région à l'autre. Ce qui ne suit pas, c'est au-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté explicite de l'éducation nationale de faire en sorte que les enfants qui souffrent de troubles du développement au sens large, et d'autisme en particulier, parce que c'est pour l'autisme que le problème est le plus délicat, il n'y a pas de volonté explicitement affichée de faire en sorte que l'école inclusive, ça devienne la règle. Non seulement il n'y a pas de volonté affichée, mais une volonté affichée dans l'autre sens. Donc c'est assez dramatique pour nous. Au dernier comité national autisme, c'est ce qu'on a vu. Était proposé dans la maquette de plan la création de CLIS, d'ULIS et d'ULIS Pro TED, adapté, donc spécifique. Et l'éducation nationale s'est empressée de dire qu'il n'en était pas question. Donc, c'est plus que dramatique. Ça montre qu'il n'y a pas de volonté interministérielle commune sur le plan autisme. Et que donc, pour le moment, c'est extrêmement difficile de réunir un consensus qui devrait quand même être de droit, aller de soi, et qui ne va pas de soi, sur la scolarisation dans le champ du handicap et en particulier pour les enfants autistes. On en est là. À suivre, puisque le plan n'est toujours pas sorti.
Il y a quand même des modules de formation d'initiative nationale dans lesquels des professionnels qui sont dans la bonne démarche et des parents devenus maîtres professionnels dont je fais partie interviennent. Mais le souci, c'est le peu d'enseignants qui ont accès à ces formations. Parce que les inspecteurs ne veulent pas laisser partir, remplacer, etc. Donc moi je vois 20-40 enseignants par an.
Oui, et puis ça devrait être plus solide. Ça reste une petite formation, une sensibilisation. Oui. C'est mieux que rien. Ouais. Mais il y a souvent des enseignants qui postulent pour ces modules et qui ne sont pas pris. Parce que il y a très très peu de possibilités. Et donc même les bonnes volontés, finalement, on ne leur laisse pas la possibilité d'exprimer leurs souhaits de se mettre aux normes en matière de scolarisation.
Alors, les deux dernières questions, là-bas et ici. Oui. Allez-y, madame.
Je voulais revenir sur cette question de la formation qui, moi, me semble fondamentale. Parce que quand on a en face de soi, effectivement, des psychologues qui sont formés majoritairement en France, parce que ça reste ça, à la psychologie clinique d'orientation psychanalytique, comment voulez-vous qu'ils aient une quelconque ouverture aux thérapies cognitives. Jusque-là, je dirais que le champ, on essaye de faire bouger un petit peu les limites en développant ce qui s'appelle la psychologie de la santé. Et il doit y avoir maintenant 7 masters en France de psychologie de la santé, dans lesquels les psychologues ont une formation à la fois clinique, mais aussi une formation à un champ très varié de thérapies cognitives et comportementales. Et ils apprennent en même temps à monter des interventions et à les évaluer. Mais ça, effectivement, c'est très mal vu, et on se bat sans arrêt contre nos collègues cliniciens pour essayer d'exister un petit peu plus.
Bien, je vais juste faire une observation à partir de à la fois l'espèce de consensus qu'on a senti émotionnellement quand vous avez parlé, et à la fois d'une sorte de décalage aussi avec le thème qui est celui d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que finalement, vous avez parlé d'une médecine que vous voudriez voir advenir, effectivement, dans le cas de l'autisme, qui est aussi fondée sur les droits. Et moi, j'ai entendu ce message très fortement de par ma spécialisation. Et la question que je me posais, et aussi, je pense, qui prend place dans ce colloque, c'est de savoir jusqu'à quel point elle est toujours compatible avec une médecine fondée sur les preuves. Et jusqu'à quel point aussi la dynamique qui est celle de la médecine fondée sur les preuves, et on entend l'adjectif derrière sont des preuves scientifiques, avec une série effectivement d'évaluations que je pense qui est tout à fait bonne, elle doit aussi parfois intégrer d'autres facteurs qui ne sont pas simplement des facteurs, je te dirais, scientifiques. Et le type d'évaluation, on l'a bien vu lorsqu'on vous a posé la question de savoir est-ce qu'il y avait des comparaisons entre des choses qui étaient faites avec les familles ou pas. Lorsqu'on suit des enfants autistes, eh bien on se rend compte que bien souvent, la tendance, y compris lorsqu'il y a des revues qui intègrent beaucoup de facteurs et qui sont très riches, vont avoir tendance peut-être à négliger, ou en tout cas à ne pas prendre assez en compte cette dimension qui est une dimension globale et qui concerne aussi les droits des personnes handicapées, des usagers, des familles. Donc il y a un risque, je pense aussi, que derrière, en tout cas, une certaine vision de cette médecine fondée sur les preuves ne prenne pas assez en compte, je dirais, des problèmes des personnes concrètes dans leur globalité, y compris de problèmes institutionnels qui sont celles de faire valoir leurs droits, que ça soit effectivement, comme vous l'avez dit, comme des groupes de patients ou de personnes, en tout cas, qui s'organisent pour peser sur la recherche, mais aussi pour peser sur leur évaluation. Je pense qu'il y a un enjeu de ce point de vue.
Non. Bah, je pense qu'il y a un problème éthique réel, hein, dont j'ai bien conscience. Je veux dire, on ne peut pas tout prouver. D'ailleurs, on ne prouve pas l'efficacité totale des programmes éducatifs qui sont mis en œuvre. C'est bien que le problème se pose. Donc, nous sommes lucides. Hein. Ce que nous essayons, nous, c'est de donner l'avis la plus digne possible et la plus autonome possible, parce que c'est ça, être un être humain. Mais nous comprenons très bien qu'après, nous butons sur le noyau dur de l'autisme, comme je dis. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont irréductibles. Et puis par ailleurs, bon, comme je l'ai rappelé, le problème éthique, c'est aussi de se demander jusqu'où on peut le faire. Il y a aussi quelque chose qui est, qu'aux États-Unis, on appelle ça la neurodiversité, bon, le droit, hein, à exister de manière différente. Si je le conçois très bien pour des personnes autistes de haut niveau, qui, dans leur discours, en gros, c'est « foutez-nous la paix », je conçois parfaitement qu'elles le disent, hein, et qu'elles le revendiquent. Enfin, ça me paraît tout à fait louable. Mais en revanche, pour des personnes qui ont des difficultés majeures de communication, et de socialisation, et qu'on n'outille pas, hein, en se disant « bon, leur droit, c'est d'être différente ». Ça, c'est de la maltraitance, à mon avis. Une personne qui ne peut pas dire qu'elle a mal, une personne qui ne peut pas dire qu'elle n'est pas contente, une personne qui ne peut pas dire qu'elle n'est pas bien en collectivité avec telle ou telle personne, qu'est-ce qu'on lui donne comme droit pour exister ? Aucun. C'est là que c'est très compliqué. Hein. C'est où s'arrête-t-on ? Dans le respect de la différence qui est due à toute personne, mais qui est due aussi à toute personne handicapée. C'est un problème métaphysique. Que je ne saurais résoudre, mais qui est passionnant, je vous l'accorde.